Vous êtes sur Radio Grand Ciel pour le quart d'heure réservé aux petits. Je suis Isabelle et avec la complicité de Roland à la technique, je vous ai choisi un livre d'Edouard Bled. Oui, oui, celui-là même qui a fait travailler tellement d'élèves sur les exercices de grammaire, un instituteur qui a créé ses livres avec sa femme Odette. Et dans ce livre-là, j'avais un an en 1900, Edouard Bled raconte sa jeunesse à Paris. Et nous sommes au chapitre 5. Cette partie de la rue était le chemin obligé de l'école, de la chapelle, du marché, de la gare. 4 fois par jour, je passais là. J'ai gardé le souvenir que dans les premiers mois de ma scolarité, mes frères chantaient « Quand refleuriront les lilas blancs ». J'étais content d'aller à l'école. J'aimais mes maîtres. Pour moi, c'était des savants. De plus, ils étaient bien habillés et portaient de belles cravates. Parfois des lavalières bleues à pois blancs. Comme c'était la mode, ils les agrémentaient d'une jolie épingle. Déjà, j'y prêtais attention. Les cravates sont la fantaisie et la note personnelle du costume masculin. Je continue à y attacher de l'importance. Mes maîtres avaient la conviction profonde de faire une grande œuvre en éduquant les enfants, en préparant l'avenir. Il me semble encore entendre la voix du maître du cours élémentaire première année. « Prenez vos cahiers. Vous allez tirer un grand trait sous le travail d'hier. Frottez votre plume au bord de l'encrier pour ne conserver que ce qu'il faut pour écrire sans tache. » Placez votre règle légèrement sous la ligne où vous allez tirer votre trait pour que la plume ne touche pas le bois de la règle. Sinon, vous feriez une longue tache. Écrivez la date. Faites un trait de 6 carrés. Maintenant, copiez la maxime morale qui est au tableau. Appliquez-vous pour bien la retenir. » Et le maître passait pour juger le travail. C'est par ces petits riens que nous acquérions des habitudes sur lesquelles tout allait reposer. Je suis maintenant au cours supérieur. Je ne sais pourquoi la rédaction que nous faisions généralement à l'école le mercredi après-midi fut reportée au jeudi à la maison. Le sujet qui, pour le maître, s'imposait sans doute après une leçon d'histoire, attaque de Paris par les Normands. Dans la bibliothèque de mon père trônait dans sa belle reliure rouge le précieux dictionnaire d'histoire et de géographie de Bouillet. Naturellement, je me documentais et une expression me frappa. Monter sur de frêles esquifs non pontés. Elle m'enchanta. Je restai bouche bée. Je la glissai dans mon devoir. Quand le maître fit le compte-rendu de la rédaction, il me complimenta. J'ai relevé dans ton devoir l'expression « frêles esquifs » qui convient parfaitement aux embarcations des Normands. Je me gonflai un peu d'orgueil. Pour moi, les mots étaient des amis qui me contaient des histoires, ou encore des fleurs qui me réjouissaient par leur couleur et leur parfum. Quand j'en découvrais un nouveau, je le notais sur un petit carnet, me proposant de l'employer dès que je le pourrais dans une rédaction. Les détours pour y parvenir étaient bien souvent tortueux. J'y arrivais cependant. Un jour, je donnais toute ma mesure. Le maître nous avait demandé de raconter une promenade sur les bords de la Marne un dimanche d'été. J'étais à mon affaire car je l'avais faite maintes fois avec ma mère ou mes frères. Les femmes s'amincissaient la taille pour avantager leur buste et leurs hanches. Et là, sur les bords de la Marne, on voyait beaucoup des femmes à taille de guêpe, selon l'expression courante. Je lui préférais des femmes à taille de sylphide, et j'imaginais un homme, promeneur solitaire, et j'écrivis un homme taciturne comme un breton. Le mercredi suivant, j'eus les honneurs du compte-rendu. Sylphide, taciturne sont des mots rares pour ton âge. Tu aurais pu dire des femmes à la taille fine, tout le monde aurait compris. Quant à taciturne comme un breton, je crois que tu exagères un peu. Bien sûr, les bretons ne sont pas exubérants comme les marseillais. Mais de là à dire qu'ils sont taciturnes, je ne le crois pas. Je suis breton et j'aime la gaieté. D'où tiens-tu tout cela? Je dus citer mes sources. J'avais trouvé sylphide dans une vieille chronique et taciturne dans le Petit Larousse qui, pour en préciser le sens, donnait l'exemple. Les bretons sont taciturnes. Je suis sûr, dit le maître, que les bretons protesteront et que cet exemple disparaîtra. Écho de paroles lointaines, images pâlies de scènes vécues, enregistrées dans la mémoire. Je revois la génisse amenée dans le préau, une fois par an pour la vaccination antivariolique. Elle se tenait tranquille au milieu de ce va-et-vient d'enfants, de nos sorties pour la récréation, et j'entends nos cris. « Afio ! Afio !» Ce qui voulait dire « Qui vient jouer à saute-mouton ?» Dans un silence impressionnant, je perçois encore la voix souple et expressive du maître quand il nous racontait, le samedi après la récréation de l'après-midi, la chèvre de M. Seguin ou la dernière classe. Nous étions émus et les larmes perlaient au bord de nos paupières. Les générations passent, mais l'enfance reste toujours l'enfance et ces deux contes mouillent encore bien des yeux quand ceux qui les racontent savent faire vibrer la chair des mots pour en donner toute la sensibilité. Qui n'a gardé en son cœur un petit coin de tendresse pour son école ? Là s'écoule un moment important de la vie. On imagine le petit nuage bleuté ou blanchâtre qui flottait lorsque le poêle tirait mal à cause du brouillard ou du vent. On retrouve toutes les odeurs, on se revoit en sarrau noir, assis à la table dont le plateau de chêne a été gravé de noms ou d'initiales et taché de couler d'encre violette, la plume au-dessus de l'encrier de porcelaine, hésitante à court de savoir, ou courant impatiente sur le cahier quand elle en est toute chargée. Notre chapelle était alors de dimension plus réduite qu'aujourd'hui, et peut-être plus intime, car certains des nôtres l'avaient vu construire. C'était l'âme de notre quartier. Sa cloche nous parlait, nous la comprenions. Ses tintements clairs, expressifs, familiers, nous invitaient le dimanche par leur troisième appel à nous presser. « Dépêche-toi, sinon tu seras en retard, et tu le sais, notre doyen, le curé Martin, n'aime pas ça. » Parfois sa voix joyeuse nous disait « Un nouvel enfant prend place parmi nous par le baptême. Deux êtres qui s'aiment s'unissent par les liens du mariage. » Mais lorsque sa voix se faisait assourdie, entrecoupée, répétant un refrain lancinant, « Dors longtemps, dors longtemps !» Ainsi, elle nous prévenait que quelqu'un du quartier venait de nous quitter et semblait nous demander par son insistance d'avoir une pensée pieuse pour lui. C'est dans cette petite chapelle que je fus baptisée. Je portais une robe brodée par ma mère, pour moi, avec amour. Ses mains étaient aussi habiles et talentueuses que son cœur était bon et doux. Il y avait mon parrain et ma marraine, un couple de comédiens, directeurs du théâtre de Belleville, des cousins. Je fus généreusement honorée. Au retour de la cérémonie, après avoir savouré ma copieuse ration de lait maternel, je m'endormis dans mon berceau. Les convives s'en donnèrent à cœur joie. Au cours du repas, mon père avait servi du pommerol, et pendant que mes parents reconduisaient les invités jusqu'à la porte du jardin, mes frères vidaient les fonds de verre et chantaient « Du pommerol, du pommerol !» Mon père amusé mit fin à cette joyeuse effervescence. « Au lit maintenant, demain au travail !» C'est là aussi que je fis ma première communion, vêtue d'un smoking, coiffée d'un chapeau melon, cravatée et gantée de blanc, portant au bras gauche un brassard de soie blanche avec un grand nœud, deux pans à franges d'argent. Quand il y avait des baptêmes ou des mariages, nous attendions à la porte de la chapelle. Et lorsque le cortège sortait, nous crions « Vive le parrain, vive la marraine » ou « Vive la mariée !» Et l'on nous lançait des poignées de dragées ou de sous. On se précipitait sur l'aubaine. C'était au plus prompt. Mais il y avait souvent plusieurs mains sur le même sou ou la même dragée, maculée de poussière, et nos corps se trouvaient enchevêtrés comme dans une mêlée de rugby. Le parrain ou le garçon d'honneur s'amusait à nos dépens, feignant de lancer à droite et brusquement virait à gauche. C'était alors des heurts, une débandade, des cris. La mariée s'avançait majestueuse et souriant au bras de son époux. un diadème ou un petit bouquet de fleurs d'oranger en cire dans les cheveux. Un autre piqué à gauche sur son corsage. Deux enfants soutenaient les traînes de sa robe. Elle montait dans son coupé, dont le cocher en livrée, haut de forme en cuir bouilli à la main, tenait la portière ouverte. La demoiselle d'honneur arrangeait la jupe et le voile de la mariée. Alors le marié, relevant les pans de son habit, prenait place à côté de son épousée. En face d'eux, la demoiselle d'honneur et son cavalier. Souvent, ils étaient déjà fiancés. Sinon, ils le deviendraient peut-être si cette rencontre leur donnait le désir de se revoir. Les invités avaient été répartis dans les autres coupés selon une étiquette assez rigoureuse. Parmi eux, presque toujours un militaire qui, selon la croyance populaire, était un gage de bonheur. Le cortège, formé de 8, 10, 12 voitures et parfois davantage, s'ébranlait. Le temps était beau, les voitures décapotées. La saison des mariages commençait avec le printemps. Les femmes portaient des robes très ouvragées, plus ou moins claires selon leur âge, toujours tressillantes. Des chapeaux, véritables chefs-d'œuvre d'art et de fantaisie, en paille fine, en soie ou en velours, ornés de fleurs printanières, de plumes et même d'oiseaux. C'était un beau spectacle de couleurs. Les gens criaient « Vive la mariée !» et faisaient des gestes de sympathie. Quand les mariages étaient modestes, les invités montaient dans un ou deux chars à bancs. La gaieté ne cessait de régner. Mais dans la vie, il n'y a pas que des joies. Ma grand-mère relevait cette évidence. Notre vie est un mystère. Un jour nous partons, comme les fleurs se fanent dans le jardin. Le portail de la chapelle s'encadrait de noir. Nous, les enfants, n'allions pas aux enterrements, mais on en voyait passer. Derrière le corbillard orné de draperies noires, plus ou moins amples, à franges de laine blanche ou argentée, un drap noir recouvrant le cercueil, les hommes de la famille, tout de noir vêtu, un large crêpe au bras gauche et au chapeau. Puis venaient les femmes, dont le visage était dissimulé par un voile de crêpe fixé au chapeau, descendant selon le degré de parenté avec le défunt, jusqu'à la taille ou jusqu'au bas de la robe. Le cocher portait une sorte de pèlerine noire et un bicorne. Il avait la silhouette des gendarmes du temps où ils faisaient leur tournée à cheval. On avait jeté sur le dos des chevaux un drap noir à franges. Mais lorsque l'enterrement était de première classe, les chevaux étaient caparaçonnés de noir et d'argent. Aux quatre coins du corbillard, un plumet de plumes d'autruche noire. Devant le cortège, un prêtre, un surplis blanc sur sa soutane, portait un grand crucifix, alors qu'à sa droite se tenait un enfant de cœur avec l'encensoir. Il arrivait que le prêtre et l'enfant de cœur fussent dans un fiacre. Tout à fait devant, conduisant le cortège, l'ordonnateur avec sa canne à pommeau d'argent et son bicorne à cocarde. Les passants s'arrêtaient, les hommes, les petits garçons se découvraient. Les femmes, les fillettes se signaient. Dans les familles, le grand deuil durait un an, suivi d'un demi-deuil de 6 mois. Édouard Blette continue sa description de sa jeune vie à Paris. Mais puisqu'il faut m'arrêter, je vous donne rendez-vous à une prochaine fois, j'espère. Merci Roland à la technique. À bientôt.